RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story. J'ai des vacances à vous faire gagner. Faut pas oublier les vacances Brel-en-Bras, les amis. Si vous avez envie de vous évader, de passer du bon temps entre amis ou en famille, loin de toutes les contraintes, c'est un all-inclusive premium grâce à Brel-en-Bras. Vous choisissez dans le catalogue l'un des 45 clubs hôtels. C'est pour vous dans les plus beaux endroits de France. Donc, tout compris premium. Vous envoyez vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. Vous choisissez la mer, vous choisissez la montagne, vous partez en famille. Pater entre amis, vous faites à la carte comme vous voulez. Rendez-vous tout à l'heure à 11h20 pour le tirage au sort. La politique maintenant, on va en parler avec Laura Barton-Martinez, avec Charles Consigny, avec Abel Boyer. C'est vrai que ces musiques, ça colle pile à Roland Lescure, le ministre de l'économie, et à Jordan Bardella.
Parce que c'est peut-être plus Jordan Bardella que Roland Lescure.
C'est vrai ?
Bah, en question de génération.
Ah bon ? Et pourtant, je voyais bien Roland Lescure se laisser aller un peu comme ça, en rythme, quand il arrive dans les couloirs de Bercy. Le déhanché lescurien. Bref, Roland Lescure, le ministre de l'économie, dit « J'ai pas de leçon à recevoir de Jordan Bardella, vous n'êtes pas passé par le monde de l'entreprise. »
Oui, alors il faut replacer ça dans le contexte. En fait, Jordan Bardella était en train de critiquer la cession d'un fabricant aéronautique français à un groupe américain. Vous savez, il y a une polémique. Et le ministre de l'économie, Roland Lescure, pour répondre à Bardella, lui a fait un peu la leçon en disant « Écoutez, vous n'avez aucune légitimité à donner des leçons de souveraineté économique puisque vous n'avez jamais mis les pieds dans une entreprise. » Voilà. Alors, c'est vrai que quand tu regardes le parcours de Jordan Bardella, il n'a pas mis les pieds dans une entreprise. Mais quand tu regardes le parcours de Sébastien Lecornu, lui non plus n'a pas de métier. C'est, en fait, au-delà même d'avoir mis un pied dans une entreprise privée un jour, nos responsables politiques, pour la plupart, n'ont pas de métier.
Et combien même ?
Ils n'ont pas de métier. C'est-à-dire que la politique, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. On est élu, etc. Ils n'ont pas de métier. Donc, en fait, souvent, ils parlent du travail, de l'activité, d'une façon très théorique, sans savoir précisément comment ça se passe dans une entreprise, c'est quoi travailler, tout simplement, au-delà de la sphère politique. Donc, Monsieur Lescure, lui, il vient du privé, ça c'est vrai. Mais malheureusement, il est bien seul au sein du gouvernement aujourd'hui, même si c'était la promesse, souvenez-vous quand même de la Macronie, d'ouvrir les portes à ceux qui venaient justement de la société civile, qui avaient une activité. Alors il y en a, par exemple, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, elle a une vie dans le privé, il y en a d'autres, hein. Je ne veux pas généraliser. Enfin, généralement, quand même, nous avons des politiques qui font la politique comme métier, qui n'ont pas de vrai métier. Je pense à Gabriel Attal également, par exemple.
Je trouve que s'il y a bien un ministère en ce moment qui doit se la faire tout petit, c'est le ministère de l'économie. Enfin,
il ne pourrait pas la ramener.
Bah non, enfin Bruno Le Maire, il vient du privé, il me semble.
Non, c'est un énarque.
Il est reparti dans le privé.
Il avait un métier, il était haut fonctionnaire dans un corps d'État.
J'estime que le ministère de l'Intérieur n'a absolument pas. Le ministère de l'Économie n'a pas donné.
Tu sais que Bruno Le Maire n'est plus ministre de l'Économie.
Oui, c'est Roland Lescure.
Voilà.
Mais c'est pourquoi tu as parlé de
ça. Avant, il me semble que c'était
Bruno Le Maire.
Oui,
merci.
Pour le bilan.
Merci, heureusement que tu es là, Charles.
Mais Roland Lescure, lui, vient du privé.
Mais ce que je veux dire surtout, vous m'avez fait perdre le fil. Enfin, franchement, c'est pas cool. Bobo, on va discuter.
Je crois que tu l'as perdu tout seul.
Mettez-moi un petit finesse, ça va me faire plaisir.
Il y a Charles qui t'a compris.
Est-ce qu'il faut des responsables politiques qui forcément
Je suis pas d'accord. Et sur le sujet de l'aéronautique, voilà, c'est là que je voulais en venir. Ce que je reproche, notamment au ministère de l'économie, c'est de voir la France comme une photo. C'est quelque chose de figé. C'est-à-dire que là, ils savent plus où récupérer de l'argent. Et donc, comme d'habitude, on vend des choses qui nous appartiennent.
Alors, vraiment, le débat, c'est pas sur ça. Le débat, c'est sur est-ce que.
Bah, si, puisqu'il donne une leçon.
Oui, mais est-ce que oui.
Il donne une leçon.
Est-ce que c'est gênant qu'un Jordan Bardella ou d'autres n'aient jamais mis les pieds dans une entreprise?
Non.
Pour ensuite diriger la France ou diriger une collectivité?
Non, je vais quand même défendre Laura, parce qu'il faut quand même rappeler le contexte. Si cette entreprise a été vendue aux Américains, c'est qu'il y avait des emplois à sauver. Donc la question, c'est, aurait-il mieux valu vendre cette entreprise aux Chinois? Donc déjà, Jordan Bardella, dans sa déclaration, il a été aussi démago que Pierre Lescure dans sa réponse.
C'est Roland Lescure, décidément.
Roland Lescure.
Pierre Lescure.
Ouais, Pierre Lescure, c'est encore autre chose.
Il a rien à voir.
Je crois que c'est dans la même famille.
Les amis, j'ai essayé quand même de vous concentrer.
Moi, je propose, on aurait dû faire, on a parlé du procureur de Toulon qui proposait des tests.
Ah ouais, là, il faut le
on aurait dû vous tester, Laura et Abel, avant que vous ne preniez la parole dans les GG.
C'est vrai, vous êtes en direct à l'antenne.
Faut-il que les GG est une formation avant d'intervenir dans l'émission? Enfin, là, on est.
Je sais pas.
C'est un festival.
Alors, est-ce que tu es sûr que tu veux continuer, Abel? Tu te sens ou pas? Oui.
Je veux continuer. Je trouve que la réponse est aussi démago, c'est comme quand on entend que t'as pas le droit de commenter le foot parce que t'as pas été professionnel. Alors effectivement, on peut faire remarquer le fait que beaucoup de politiques n'aient jamais eu une carrière professionnelle construite, mais ce qu'il faut surtout, c'est aller auprès des gens, c'est les aimer. On sait que les politiques sont entourés de professionnels. Il y a des cabinets ou autres quand même qui donnent des informations. Donc cette remarque,
je suis pas sûr que dans leur cabinet il y ait beaucoup de gens qui aient travaillé dans les entreprises aussi.
Oui, bien entendu, mais il y a des gens quand même qui sont sur le terrain quand même. Bah oui, effectivement, sinon ça ne sert à rien. Et Jordan Bardella, comme les autres politiques qui sont en contact, eux-mêmes vont rencontrer les chefs d'entreprise, en tout cas, je l'espère pour eux. Donc je trouve qu'on est dans un match entre deux démagogues, et je ne pense pas qu'il ait besoin d'avoir fait une immense carrière professionnelle pour être un bon politique, sinon ça se saurait.
Charles.
Non, moi je suis d'accord avec ce que dit le ministre Lescure. Je pense que le monde politique est beaucoup trop en autarcie ces derniers temps, et d'ailleurs ça concerne pas que les élus. Moi je mets dans le lot aussi les journalistes et les éditorialistes politiques qui très souvent ne sont pas au contact d'autres domaines que la politique. Et donc on voit bien que de plus en plus c'est un monde qui obéit à ses propres codes et qui ne sont pas des codes compris et partagés avec les Français, et qui est assez rétif à l'irruption dans son univers de gens qui n'y sont pas déjà. Et donc je vois parfois des chefs d'entreprise qui voudraient s'engager en politique, qui essayent de s'exprimer dans les médias, qui essayent de faire valoir leur expérience et leurs propositions, et souvent ils se heurtent à quelque chose d'assez étanche et c'est mauvais, puisque
ce qu'on appelle la technostructure ou l'administration,
c'est à la fois l'administration mais c'est aussi l'entre-soi politico-médiatique. Je pense qu'il y a quand même une manière de certains journalistes de vouloir faire les élections, par exemple, de vouloir absolument dire qui est ou n'est pas dans le match des élections. Tout ça me paraît sentir un peu le renfermé. Et je pense que Emmanuel Macron a essayé d'ouvrir un petit peu en 2017 l'Assemblée nationale.
Donc Bardella devrait prendre un peu d'étoffe dans l'entreprise avant de briguer l'Élysée.
Entreprise ou autre. Entreprise ou autre. Mais oui, moi, je pense qu'effectivement, avant de entrer en politique, là, je pense deux choses. Un, je pense qu'avant d'entrer en politique, c'est bien d'avoir fait un petit bout de chemin dans le privé ou dans un autre domaine. Un médecin dans le public, par exemple, me paraît tout à fait qualifié pour ensuite venir participer à la vie de la cité. Mais avoir fait autre chose que de la politique, ça me paraît important. Et je pense, moi, qu'il faut changer les règles pour permettre à des gens de la société civile de venir voter les lois. Je trouve qu'en fait ce système où on est élu pour 5 ans dans un mandat très chronophage, avec en plus maintenant des règles de transparence complètement hystériques qui font que beaucoup de gens sont dissuadés d'y mettre un orteil, n'est pas un système sain. Et je trouve que par exemple on devrait siéger non pas pour 5 ans mais mettons pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, pouvoir le faire en plus de son activité professionnelle et participer à la délibération collective, à l'élaboration de la loi. Ça me paraîtrait pas du tout malsain. Au contraire, on tire au sort des gens pour être jurés de cours d'assises et décider de peines de prison à perpétuité. On pourrait parfaitement imaginer le même système pour voter nos lois, ou un système approchant. Mais la professionnalisation de la politique me paraît pas saine, surtout, et j'en termine par là, maintenant que c'est devenu quand même assez ingrat et que ça n'attire plus le haut du panier.
On a Siem qui est chef d'entreprise en Haute-Garonne. Bonjour Siam.
Oui, bonjour.
Vous pensez qu'il faut passer par la case entreprise avant de faire de la politique?
Je dirais pas qu'il faut passer par la case entreprise, mais ce que je disais, il faut quand même avoir des notions d'économie. Je suis désolée, mais c'est ce que je disais. Le LFI et RN, par exemple, ça va être très rapide. Ils ont des propositions. Et à chaque fois, là où ça pêche et où je pense qu'ils ne passeront jamais, c'est qu'économiquement, quand on leur demande comment tu comptes financer ça, ça bégaye. Ils proposent plein de choses et quand on leur demande économiquement comment ça peut tenir la route, il y a rien, ça bégaye. En 2017, Marine Le Pen, elle a bégayé devant Macron parce que ça tient pas la route.
Un
LFI, par exemple, quand on va lui dire et qu'il nous dit qu'il faut aller taxer les riches, ok, très bien, mais quand tu me dis ça, c'est qu'économiquement, ça vole pas haut, parce que si tu fais partir les riches, on va se retrouver entre pauvres en France. Qui est-ce qui va payer tous les impôts? Qui est-ce qui va payer notre sécurité sociale? C'est intenable. Donc si tu fais payer les riches, si tu les surtaxes, ils vont partir, ils sont partis. Enfin, et on
non,
a
mais
besoin,
vous avez tellement raison. Non, mais
on
si
a besoin des riches en France.
Mais c'est clair.
Non, mais même au-delà de
ça.
Ouais. Mais vous avez tellement raison sur l'inculture économique, Siam. Moi, c'est un truc qui me frappe. Peut-être encore plus avec la nouvelle génération, je sais pas. Mais quand on interroge des responsables politiques, et on le fait toute la journée avec Alain, aussi bien ici que sur BFM TV, je suis effaré par le manque de connaissances économiques. Après, on peut être libéral, pas libéral. Enfin, après, c'est des convictions personnelles. Mais sur la base, c'est des contre-vérités qui sont données.
Certes, Olivier,
qui sont données tout le temps. Et je me suis dit, mais le monde, enfin, l'économie, c'est essentiel. Quand tu diriges un pays,
c'est
le socle. Et il y a une méconnaissance, une ignorance.
Regarde Emmanuel Macron que toute la presse présentait comme
le Mozart de la finance.
Nos amis des challenges qui sont venus.
Ouais, permettez-moi de dire qu'Emmanuel Macron, je suis désolé, mais on lui a mis des bâtons dans les roues.
Oui, enfin bon, les 3 000 milliards et demi de dettes, excusez-moi, il les a fait tout à fait de son plein gré. Et si aujourd'hui les Français sont moins riches que la moyenne européenne, c'est quand même au bout de 10 ans de mandat du jeune Macron.
Alors, c'est pas parce qu'il est nul en économie.
Des bâtons dans les roues.
C'est pas parce qu'il est nul en économie.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il est nul en économie, c'est parce que, enfin, pour moi, il avait compris sur le principe qu'il fallait aller taper sur les deux. Quand il a enlevé l'ISF, on lui a dit, ah, t'es de droite, en fait, t'es avec les riches. C'est pour faire revenir les riches. Et quand il tape un peu sur la section, sur les gens qui sont les travailleurs, etc., mais c'est parce qu'il faut aller chercher l'argent un peu.
Sauf que le problème, c'est qu'il a fait qu'une part du travail. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je pense qu'il avait raison de favoriser les entreprises, le business, mais derrière, il fallait faire des économies parce qu'on dépense trop. Et là, c'est pas un problème de connaissances économiques, c'est un problème de courage politique.
Je pense que
Emmanuel Macron a manqué de courage politique, mais il s'est fait réélire, donc finalement, payant pour lui, hein, mais de courage politique en disant aux Français, on dépense trop, on peut plus embaucher des fonctionnaires chaque année.
Il
avait promis, d'ailleurs, souviens-toi, de réduire le nombre de fonctionnaires, finalement, il l'a augmenté. Du courage politique.
Oui, mais le ressenti des Français, il est un peu différent, parce que ce que tu dis sur le papier, c'est vrai, mais certains vous disent, les professionnels qui étaient là avant, regardez dans quel état ils ont mis le pays. Et maintenant, quand on parle des notions, des lacunes au niveau des notions économiques, les économistes entre eux ne sont pas d'accord avec les autres. Tu prends Thomas Piketty, il te dira le contraire d'un autre.
Oui.
Donc que ce soit LFI ou le Rassemblement National, ils consultent des économistes.
Non, tu as raison.
Bah oui, il faut le faire aussi.
Siam, merci d'avoir été avec nous. Il y avait un bébé à côté de vous, un enfant?
Non. Oui.
Quel âge?
Qui a 2 mois.
Ah, mais félicitations. Comment s'appelle-t-il ou elle?
Elle s'appelle Sina.
Eh ben écoutez, on l'embrasse. Merci Siam d'avoir été
vraiment,
avec nous.
Où elle a vraiment raison, c'est que nous, on a fait un forum du coup avec Monsieur Bardella. On est 3 chefs d'entreprise à lui poser des questions sur l'économie et comment tu vas aider les boîtes. C'est une bulle. La seule réponse qu'ils ont, enfin moi j'en ai été effaré, c'était via mes économies sur l'immigration. Mais gars, c'est pas le peu de...
Mais la dernière fois, il y avait un sur BFM.
Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de logique financière, il n'y a pas de construction. C'est, malheureusement, c'est ce que j'ai envie d'entendre pour ma société, mais bizarrement, enfin moi, quand je prévois un investissement dans ma boîte, je réfléchis à comment je vais le financer. Et là, en face, il n'y a pas.
La dernière fois sur BFM, je tairais son nom par charité chrétienne, mais il y avait un responsable politique qui confondait le chiffre d'affaires d'une entreprise avec les bénéfices. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Ce type-là, ensuite, il vote des lois. Il vote le budget.
Olivier de l'Hérault. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Est-ce que vous pensez que, pareil, il faut passer par la case entreprise avant de se lancer en politique ou pas?
Bah écoutez, si tous les politiques avaient dû passer par la case entreprise, je pense qu'il y aurait déjà plus beaucoup de politiques à l'heure actuelle au pouvoir, parce qu'il n'y en a pas énormément dans le cercle politique, hormis les sorties de l'ENA et autres hautes écoles. Enfin, il n'y a pas grand monde. Par contre, là où je suis un tout petit peu étonné, c'est que l'avantage, à mon avis, de Jordan Bardella, c'est qu'il a quand même 122 députés qui sont issus de toutes classes socio-professionnelles et qui lui apportent une expérience de terrain. Moi, je suis très intéressé par le côté sécurité et je sais qu'il est entouré comme de personnes qui s'y connaissent, qui ont travaillé sur le terrain. je sais qu'un député, ouais. Voilà, il a été agent immobilier, donc tout ce qui est logement, DPE, tout ça, c'est du terrain, c'est du concret, donc il est très bien entouré de sa bande.
Ah oui, parce que quand on a été agent immobilier, c'est sûr, on devient un expert du logement. Si c'est ça votre standard de,
déjà on connaît le alors, marché.
Si c'est ça votre standard d'exigence, cher Olivier, franchement. Bah
alors, Charles, permettez-moi de vous répondre.
Minima, en général,
il connaît le logement, il connaît le plafonnement des loyers, il connaît toutes ces thématiques-là. Mmh. C'est quand même une base. Et oui, alors certes, c'est peut-être pas l'expert national du logement, mais par contre, quand il est confronté à une pénurie de logement dans sa ville et toute autre problématique de rénovation, oui, certainement, il est bien plus expert qu'un théocrate qui est dans les bureaux à Paris et qui pond des normes, alors qu'il a jamais mis dans un appartement. Oui, mais bien sûr.
Théoricien.
Pour moi, c'est pareil. En fait, ils sont dans les bureaux. C'est la technocratie. Ils pondent de la norme à un plus en pouvoir. Et forcément, derrière, c'est l'impact sur le terrain. Donc, en tout cas, au Rassemblement National, il y en a qui viennent du terrain, certainement ailleurs aussi. Mais bon, quand M. Lescure se permet de dire qu'il faudrait aller travailler avant, qu'il se permette de dire ça aux autres formations, et je pense qu'il y a plus de personnes
qui sont là où Roland Lescure est quand même malhonnête, c'est que cette leçon qu'il fait à Bardella, il pourrait le faire à ses collègues du gouvernement. Aussi, bien sûr.
Donc, voilà.
Olivier, allez-y, je vous en prie.
Ouais, juste un tout petit dernier point. Le but, en fait, de ça, enfin, moi, si vous préférez, ce que je vois, c'est qu'on l'a attaqué sur son âge. On l'a attaqué sur pas mal de sujets et maintenant on va l'attaquer sur ce système d'emploi avant travail. Je pense que c'est surtout un manque d'arguments pour essayer de contrer Jordan Bardella plutôt qu'autre chose. Après, ouais, ça, après
Olivier, c'est pour ça que vous êtes avec nous, Olivier de l'Hérault, Siam de Haute-Garonne. On va continuer d'en parler. Je vous remercie, Olivier, d'avoir été dans les GG parce que c'est pas mal réagir au 32-16 justement. Cette idée de dire avant de se lancer en politique, on passe par la case entreprise. Après, tu passes pendant combien de temps et tu passes par la case entreprise en tant que quoi, en tant que salarié, en tant que dirigeant, tu vois. Et après, on va faire le procès. Ah, mais oui, en entreprise, n'avait été que salarié, n'avait pas été dirigeant. Enfin bon, je sais pas si c'est la vraie ou bonne idée ou la fausse bonne idée. On va continuer d'en parler avec Thibaut. Il est chef d'entreprise. Il est du côté de la Savoie. Ça sera première au 32-16. Jordan Bardella n'a jamais mis les pieds en entreprise, comme beaucoup de nos responsables d'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment un problème aujourd'hui? On vous attend. À tout de suite. Il est 10h20.
RMC, 9h, midi. Les Grandes Gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
On continue le débat parce que il vous fait beaucoup réagir au 32-16. Est-ce qu'on aurait de meilleurs responsables politiques? Est-ce qu'ils résoudraient les problèmes du pays s'ils étaient tous passés par la case privée ou par la case chef d'entreprise? Voilà, c'est la question, parce que c'est le reproche que fait Roland Lescure, le ministre de l'économie, à Jordan Bardella. Il lui dit, vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous n'avez jamais travaillé dans le privé, vous n'avez jamais été dans une entreprise, donc vos leçons, vous les gardez. Voilà ce qu'a dit Roland Lescure au président du Rassemblement National. Alors, est-ce qu'il a raison? Est-ce que tous les maux du pays aujourd'hui viennent d'une classe politique qui ne s'est jamais confrontée à la réalité de l'entreprise? Thibaut veut en parler avec nous, il est du côté de la Savoie. Bonjour Thibaut.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous en dites alors?
Eh ben moi j'en dis que vous voyez, moi j'ai 28 ans, donc je suis même plus jeune que M. Bardella.
Ouais, 2 ans de moins, ouais.
Voilà, pourtant ça fait déjà 4 ans que bon, je suis chef d'entreprise dans la mécanique de précision. Petite société, on est 6-7 personnes. Et donc je pense qu'il serait bien qu'à un moment donné, tous ces gens qui nous gouvernent se salissent les mains, quoi. Au moins voyez un peu ce que c'est que le vrai travail, hein, que ce soit un travail salarié, un travail d'artisan, un travail dans des hôpitaux ou dans des entreprises privées, quelles qu'elles soient, pour voir un peu que ce sont les entreprises qui font tourner le pays, qui contribuent, et puis que s'il n'y a plus d'entreprises, il n'y a plus de salariés, il n'y a plus d'impôts, et à la fin, s'il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de politique, quoi. Donc c'est vraiment les entreprises qui font tourner, et c'est vraiment la vraie vie des vrais gens, et malheureusement, j'ai l'impression que les politiques sont de plus en plus...
Prenons un exemple, Éric Dupond-Moretti. Alors, s'il y en a bien qui a réussi sa carrière dans le privé, c'est bien Éric Dupond-Moretti. Ça a été un des meilleurs avocats de France, celui qu'on surnommait Acquittator. Est-ce que ça en a fait un bon ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ou pas? Enfin, je sais pas. Hein. Alors, on sait qu'il a augmenté le budget du ministère de la Justice. C'est lui qui les impose avec son autorité naturelle, avec son savoir, en disant là il me faut des greffiers, là il nous faut des juges, des magistrats, et il se vante de ce bilan. Est-ce que il restera dans le quinquennat, dans le décennat Macron, comme ayant été un bon ministre de la Justice, aussi bon qu'il a été avocat, oui ou non?
Non, probablement Charles, pas, parce que
là, ouais, Thibaut dit, il faut salir les mains. Il s'est sali les mains.
Je pense que Dupond-Moretti, c'était un pari. et que il a. Je pense qu'il était trop content en fait d'être nommé ministre de la Justice. Ouais. Et qu'il s'est fait avoir par les énarques qui font ça de manière professionnelle, les Castex et compagnie, qui lui ont fait croire que il l'aidait, alors qu'en fait ils ont fait comme bon leur semblait.
Il a été rattrapé
par le système. Il aurait dû être beaucoup plus remuant et aussi remuant et talentueux à la tête de son ministère qu'il avait pu l'être aux assises. Il l'a pas fait. Ça veut pas dire que toutes les personnes issues de la société civile se révèlent mauvaises en politique, c'est un peu un contre-exemple.
Mais souvent ils sont minoritaires.
Jean-Michel Blanquer aussi. Ouais. Il était un grand ministre de l'Éducation nationale.
Oui, Blanquer.
Je trouve qu'il a fait des choses plus intéressantes.
Le ministre actuel de l'Éducation nationale, il vient du terrain aussi.
Oui.
Donc ce n'est pas une certitude.
Oui, mais justement. Alors que Blanquer était très bon.
Non, pour moi, la professionnalisation avant. D'avoir travaillé dans le privé avant, c'est pas un gage de réussite. En revanche, c'est ce que je te disais.
Tu peux quand même connaître un peu la vraie vie aussi, quand même.
Pas forcément. Tu peux la connaître de plein d'autres manières.
Si t'as pas quitté, des arrondissements chics parisiens.
Non, je suis pas d'accord. Moi, j'ai jamais été plombier de ma vie. Mon mari, il est plombier. Je peux connaître les rudiments.
Oui, mais t'as travaillé, t'as fait des métiers, etc.
J'estime que c'est pas un gage de réussite. En revanche, là. Où ça pourrait être intéressant d'avoir exclusivement des gens du privé, ça pourrait éviter ce qu'on a en ce moment à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des gens qui n'ont basé leur réussite professionnelle uniquement sur leurs élections, et que malheureusement, on a des gens qui s'arrangent entre eux pour garder leur...
Thibault, vous vouliez ajouter quelque chose? Pardon, je vous ai coupé la parole, Thibault.
Non, mais c'était juste pour dire que oui, le principe, c'est que pour toutes les entreprises, à la fin du mois, il faut générer du chiffre d'affaires pour pouvoir payer les salariés, payer les machines, payer toutes les factures, et je vous parle même pas des impôts, de l'URSSAF, de la TVA, etc., etc. Et donc, je pense qu'à la fin, si ces gens-là voyaient un peu tout ce qu'on paye, savaient lire un peu un bilan comptable et voir un peu comment ça fonctionne dans la vraie vie, je pense qu'on aurait moins de soucis, en tout cas au niveau économique.
Thibault, on va en parler avec Jean-Pierre, qui est du côté du Val-de-Marne, je crois. Jean-Pierre, qui est retraité. Bonjour, Jean-Pierre.
Non, monsieur, je suis dans Paris. Bonjour. Ah,
pardon, écoutez,
quel est réussi à rentrer dans Paris?
Il y a marqué Paris 12, Val-de-Marne.
Comment vous avez fait?
C'est pas grave.
Alors, on y va, Jean-Pierre.
Bon, alors, allons-y. Moi, je pense, si vous voulez, que je ne demande pas à un élu d'être compétent dans tel ou tel domaine, je lui demande d'avoir un projet, et un projet pour la France de préférence. Et c'est ce projet auquel je vais adhérer, et ensuite, j'ai l'expérience d'être un ingénieur généraliste. Quand j'avais des problèmes financiers ou des problèmes de droit, je m'adressais à un financier, je m'adressais à un spécialiste du droit, et c'est avec lui que je rédigeais mes contrats, tout simplement. Ce qu'on demande à un politique, c'est d'être à l'écoute, de savoir dialoguer avec les spécialistes pour être le généraliste qui a un projet. Et si le politique n'a pas de projet, quelle que soit son expérience, je dirais pas qu'on en a l'expérience aujourd'hui, mais je le pense quand même un petit peu.
Oui, mais
quelle que soit son expérience.
Oui, mais ce projet, il se base sur quoi?
Eh ben, il se base sur un projet politique.
Oui, mais ce projet politique, il se base sur quoi? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire qu'il ait un peu une expérience professionnelle pour affiner son projet politique?
Mais bien sûr que non, parce que vous allez demander à un ministre de la Santé d'être médecin.
Et
vous
allez c'est arrivé, oui.
Ministre des Transports.
Aujourd'hui, la ministre de la Santé est médecin.
Et vous allez demander. Non, mais.
Et pourquoi pas?
Ben non, parce que le généraliste, c'est comme le dirigeant d'entreprise, il est à la fois médecin, financier, responsable du droit et responsable de ses chantiers.
La ministre actuelle est médecin, par exemple.
Oui, bien sûr, mais c'est pas le cas particulier qui fait l'exemple.
Il y en a eu pas mal sous Macron, par exemple, le précédent était médecin aussi.
On a vu les résultats, je suis d'accord avec vous.
Alors, je dis pas que ça fait des bons ministres, mais ça fait quand même des gens qui arrivent en poste en sachant de quoi ils parlent. Sinon, ils sont aux mains de leurs conseillers et de ce qu'on leur dit de dire.
Le dernier qui a eu une vision pour la France, je suis désolé de devoir vous le dire, c'est De Gaulle. Et De Gaulle, il a fait la nucléaire, il a fait la défense, il a fait le Concorde, il a fait la caravelle. Il a fait rêver des Français pendant 20 ans. Voilà. Bon, alors après, on peut toujours, évidemment, toute médaille a son revers, et on peut aussi critiquer un certain nombre de choses. Mais n'empêche que qui est-ce que vous avez après De Gaulle qui a su nous faire rêver? Qui est-ce qui a su dire j'ai un projet et pendant 14 ans, pendant 15 ans, et je vais le réaliser avec vous.
Après, on a eu des technocrates. Oui, mais Jean-Pierre, vous venez de donner un contre-exemple. Le général de Gaulle n'était pas un technocrate. Voyez, après, on a eu des technocrates et c'est les technocrates qui, pour la plupart, n'avaient pas de métier. François Hollande n'a fait que de la politique dans sa vie. Le général Valéry Giscard d'Estaing n'avait pas de métier non plus. Voilà ce que ça a donné aussi. Jacques Chirac était aussi un technocrate.
Jean-Pierre.
Voilà ce que ça a donné. Vous donnez plutôt des arguments qui plaident pour des gens qui viennent de la vraie vie.
Et vous voyez, Jean-Pierre, je pense qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est peut-être qu'on attend trop des politiques. Parce que regardez, les dernières révolutions qui sont venues, qui ont changé la société, elles sont venues du privé, en fait. Et elles sont venues des États-Unis. Elles sont venues de tous ceux qui ont inventé les nouvelles technologies, qui ont inventé l'iPhone, qui ont inventé les applications. Et c'est ça. Aujourd'hui, finalement, les politiques, qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce qu'on attend d'eux? C'est plus ou moins de taxes. En fait, grosso modo,
c'est des experts comptables.
C'est ça.
C'est ce qu'avait dit François Mitterrand.
Après moi, il y a plus des experts comptables. Oui, mais comme ils mettent énormément de taxes, l'initiative privée France, elle est étouffée, elle est empêchée par ces gens-là, par ces gens-là qui maintiennent une sphère publique tellement obèse que les jeunes Français et les entrepreneurs français dans leur ensemble sont découragés de faire ce que tu dis. C'est ça aussi.
Selon moi, il y a des gens qui réfléchissent.
On parlait de l'hôpital.
On aurait aimé que Google soit inventé en Europe.
Mais comment veux-tu faire Google avec 75%
d'impôts? En revanche, celui qui a inventé Siri, c'est un Français qui vient de Toulouse. Il est parti aux États-Unis pour développer ensuite. Jean-Pierre, je vous remercie d'avoir été avec nous.
Ils réfléchissent à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils voient d'abord tout ce qu'ils veulent dépenser, et une fois qu'ils ont réfléchi à. Enfin, c'est comme le budget des dépenses est voté avant. Donc, tu réfléchis à tout ce que tu vas devoir dépenser, et après.
Tu regardes les recettes.
Tu regardes à comment je vais gagner de l'argent. Forcément, ça ne fonctionne
Kevin
pas.
Kevin va conclure la discussion, et je remercie Thibaut et Jean-Pierre d'avoir été des nôtres en Savoie et dans le Val-de-Marne. On va terminer avec les Bouches-du-Rhône. Bonjour, Kevin.
Ça me fait plaisir d'être avec vous.
Bienvenue. Qu'est-ce que vous en dites
tous les matins? Alors moi, ce que j'en dis, c'est que je pense qu'il faut des deux. C'est-à-dire qu'on a des gens très très brillants qui n'ont pas besoin d'avoir été dans des sociétés pour pouvoir être politiques. Comme je prends l'exemple de David Lisnard ou François-Xavier Bellamy, que je suis énormément et que je trouve qui sont très 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 brillants, n'ont pas besoin d'avoir fait forcément des sociétés privées. Mais par contre, pour certains postes, on a obligatoirement de gens qui sont passés dans des sociétés privées et qui connaissent les rouages. Sinon, c'est pas possible. On n'avancera jamais.
Par exemple, aujourd'hui, on a Serge Papin qui vient du privé de Super U, qui est ministre du Commerce et des PME. Pardon, quand Serge Papin parle, je le trouve plus qualifié que d'autres, dont je tairai le nom, parce que on sent quand même qu'il sait de quoi il parle.
Non, voilà. Dans son action aussi.
Ah non, bien sûr, mais moi je prends mon exemple personnel. Dans ma société, moi je suis dans le e-commerce. Quand je vois chaque année à l'Europe ce qu'ils nous pondent comme loi par rapport au e-commerce, je peux vous dire qu'ils n'ont jamais travaillé dans le e-commerce. Ils savent pas de quoi ils parlent. Parce que chaque année, on a des lois, on a des nouvelles normes à mettre en place. Alors Amazon nous rend fous, Cdiscount nous rend fous, et sur nos propres sites internet, on nous rend totalement fous. Donc pour vous dire que vraiment, il faut des gens qualifiés. À l'Europe, je pense qu'il n'y en a jamais un qui a travaillé de sa vie, hein, c'est pas possible.
Ouais, Kevin, vous êtes dans quel secteur d'activité, vous dites?
Moi, dans le e-commerce.
Vous faites quoi? C'est quoi votre activité, en fait?
Alors, moi, je travaille avec les grandes surfaces, donc je rachète les invendus et les surstocks qu'ils peuvent avoir, et je revends sur Internet et sur les marketplaces depuis maintenant 10 ans.
Et ça marche bien?
J'étais trader. Ouais, ça fonctionne bien. Sauf qu'avec les lois qu'on nous pond à l'Europe, je peux vous assurer qu'on se tire les cheveux tous les jours. Mais tous les jours, c'est
invraisemblable. Ça plombe le chiffre d'affaires, du coup?
Ça plombe pas le chiffre d'affaires, mais ça nous prend du temps pour rien. Par exemple,
le temps, c'est de l'argent.
Ah, exactement, vous avez tout compris. Mais par exemple, ils nous ont pondu une nouvelle réforme, pour que tout ce qui est joué, donc moi je suis spécialiste du jouet en plus, on a des nouvelles normes à mettre en place. Il faut que les certificats de conformité des jouets qui datent de avant 2015, je crois, on refasse faire des certificats de conformité. Alors, on n'a pas le temps. C'est pas notre travail. Nous, on vend. Donc, s'ils veulent faire quelque chose, ils le fassent eux, qu'ils viennent eux dans nos bureaux faire le travail, mais qu'ils nous plantent pas du temps. Donc, quand on me demande 1500 références à refaire un certificat, j'ai pas que ça à faire.
Merci, Kevin.
Merci à vous, en tout cas.
Merci, salut. Merci d'avoir été avec nous dans les GG. Merci de votre fidélité, Kevin. Alors, Jordan Bardella n'a jamais mis les pieds dans une entreprise. Est-ce que ça pose un problème? Oui ou non? Vous dites non à 64%, en tout cas dans la remarque que fait Roland Lescure à Jordan Bardella. Dans un instant, on va regarder, tiens, ça c'est une décision intéressante. La cour d'appel de Toulouse vient de condamner un concessionnaire Peugeot. Il doit rembourser le véhicule électrique parce qu'en fait, il avait triché sur l'autonomie. Mm-hmm. Est-ce qu'on nous raconte des cracks sur l'autonomie réelle des véhicules électriques? 32-16 pour venir en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Il est 11h25.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Et quand c'est en all-inclusive premium, bien évidemment, alors là, c'est la régalade totale. En famille ou entre amis, vous faites comme vous voulez. C'est Bellambra qui s'en occupe dans les clubs et hôtels. 45 destinations dans les plus beaux endroits de France. C'est le tout compris premium. Vous avez juste à envoyer vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner. Le gagnant tout à l'heure à 11h20 en direct dans les GG, dans les grandes gueules. Parlons autonomie voiture électrique maintenant. La cour d'appel de Toulouse vient de mettre à l'amende un concessionnaire Peugeot. Elle a ordonné le remboursement du véhicule électrique. En fait, entre ce qui était promis et le réel, il y a eu 23% en fait d'autonomie en moins.
Tout le monde le sait, c'est un grand mensonge. Chaque hiver, j'ai appris ça ce matin, la Norvège organise le plus grand test d'autonomie électrique au monde. En fait, c'est une course, il y a 25 véhicules qui sont sélectionnés, il y a une seule route. Et l'objectif est unique, c'est rouler jusqu'à l'arrêt total, avec des températures norvégiennes, donc il faisait moins 31 la dernière fois. Aucune voiture sur les 25 n'a atteint son autonomie annoncée. C'est le grand mensonge. Quand on vous dit 500 km d'autonomie pour une voiture électrique, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Mais bon, c'est une façon de vendre ton véhicule. Donc là, il y a eu une condamnation. Est-ce qu'il faut généraliser et arrêter de mentir
en plus,
aux acheteurs?
Ce qui est très bien, c'est que dans cette histoire, je ne sais pas si vous avez lu, mais l'expert a fait réaliser le test,
ben oui.
Tu vois, lui-même, dans ce qu'il appelle dans les conditions optimales, effectivement. Et il a ordonné le remboursement de 18 990 euros de la voiture. Il a condamné Stellantis France à verser 1 000 euros pour le préjudice, 258 euros pour les frais d'expertise, 1 500 euros afin pour la prise en charge pour le gars. Donc le gars est tout content, il a gagné. Attendez, tout de suite, on a Edouard qui veut réagir au 32-16 avant de vous écouter, mes chers grandes gueules. Bonjour Edouard.
Bonjour Edouard.
Bonjour.
Edouard dans l'Isère. Qu'est-ce que vous en pensez, Edouard? Est-ce qu'on nous raconte des cracks sur l'autonomie, alors?
Totalement. Totalement. Je suis le propriétaire d'un C4, un Citroën. J'ai acheté ce véhicule, donc neuf, en concession. On m'avait promis une autonomie à 100%, donc le gros modèle, à 436 km d'autonomie. Et aujourd'hui, j'ai fait donc le test sans radio, en respectant 90 km/h et 110 km/h. Je fais 200 km.
À deux fois moins?
Ouais. Oui.
Et vous êtes allé vous en plaindre quand même, vous êtes allé en parler?
Alors je suis allé en parler, donc ce qu'on me dit, ben c'est forcément oui, on fait pas tout à fait les mêmes nombres de kilomètres. Je suis tombé sur un concessionnaire qui m'a dit aussi qu'il était étonné. Donc j'ai même fait donc l'expérimentation avec des collègues à moi qui étaient vraiment intéressés pour passer justement à l'électrique, et je leur ai vraiment coupé l'envie, et moi-même je suis complètement dégoûté de...
Vous avez l'impression de vous être fait avoir, quoi, en fait?
Ah, totalement. Je passe, si je peux être clair avec vous, je fais à peu près une recharge qui me coûte 29 euros à borne rapide chaque semaine.
C'est quel modèle déjà?
Le C4 électrique. Le C4
qui vous a coûté combien?
Qui m'a coûté, écoutez, je paye actuellement une mensualité de 200 euros par mois. Mmh. C'est à peu près 32 000 euros.
D'accord. Bon, Edouard, mécontent, on lui a raconté n'importe quoi. Il fait deux fois moins que ce qui était annoncé. Merci Edouard d'avoir été dans les GG. Merci bien. Qu'est-ce que vous en dites?
Le cas d'Edouard est un cas qui est assez récurrent parce qu'il y a plusieurs études qui sont sorties qui montrent qu'on est en moyenne entre 20 et 30% en moins par rapport à ce qui est annoncé. Donc c'est quelque chose qui est connu. Maintenant, ça risque de donner une idée. Beaucoup de gens risquent de se retourner vers la justice pour gagner beaucoup de thunes. Moi, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas prêt à passer à l'électrique, parce qu'on sait que c'est une motorisation qui n'est pas prête encore, qu'il y a encore des tests, elle est encore en réalité à l'expérimentation. Ça, c'est la chose qu'on ne nous dit pas. Et le monde écolo est en train de courir pour aller vers la fin du thermique, alors que la réalité, on n'est pas prêt à passer au tout électrique. Déjà, vous avez le coût.
Bah déjà, simplement de ne pas mentir à l'acheteur, de dire la vérité.
Mais parce que
bien compris que... C'est effectivement, c'est des offres alléchantes.
Bien entendu.
Et que l'autonomie, c'est quand même le sujet numéro un sur un véhicule électrique.
Et le fait aussi de ne pas polluer. Quand je parle d'expérimentation, le mot est un peu fort. On sait aujourd'hui qu'il n'y a aucune batterie électrique de véhicule qui va à 100% de la capacité qui a annoncé.
En général, c'est 80%.
Exactement. 80% au gros maximum. Donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'expérimentations et ces batteries qui iront vraiment à 100%, même 95%, c'est pas avant 5 ou 10 ans en réalité.
Oui, mais
on nous le dit pas.
Il y a quelque chose que je comprends pas. C'est alors, est-ce que c'est pas plutôt en fonction des modèles? Parce que quand tu discutes avec le chauffeur VTC qui sont passés au Tesla ou qui sont passés au BYD chinoise, ils te disent tous qu'ils sont satisfaits.
Oui, mais ils sont en ville, ils ont 25 km/h.
Ouais, mais pas tous. Oui. Parce que moi, ceux avec qui je discute quand je suis à Nice et qui vont dans l'arrière-pays et qui font pas mal de routes départementales, que ce soit sur les Alpes-Maritimes ou sur le Var, ils te disent qu'ils sont pile dans ce que leur annonce le constructeur, et qui est d'ailleurs, ils sont super contents des contrats qu'ils ont passés avec le chinois ou avec l'américain. Donc, est-ce que c'est pas plutôt au niveau peut-être des petites urbaines ou ensuite de l'offre commerciale qu'on raconte des crocs comme on l'a raconté à notre camarade
Pierre? Après, faut voir, mais déjà, il y a l'illusion de comparer avec ce que l'on dépensait quand on roulait à l'essence ou au diesel. Donc, forcément, psychologiquement, on dépense moins, avec une impression de confort et avec le fait de se dire que la voiture, elle est plus calme, parce que les chauffeurs dont tu parles, ils ont un rapport avec la voiture qui est assez différent.
Oui.
Et c'est...
Non, mais peut-être. Est-ce qu'on nous ment l'autonomie des voitures électriques, Charles et Laura?
Je crains qu'on découvre que effectivement les voitures chinoises, elles présentent une autonomie tout à fait satisfaisante, se rechargent beaucoup plus vite. Pourquoi?
Parce on n'est pas à l'abri.
Les Chinois sont à l'offensive de l'innovation. Et nous,
c'est peut-être pour ça qu'on ment d'ailleurs sur les voitures françaises.
Bien sûr.
Parce que là, ce dont on parle, le C4, voiture française, et notre ami qui a été, qui s'est fait avoir à Toulouse, voiture française. Ou alors c'est les constructeurs qui mentent effrontément.
De toute façon, les constructeurs mentent.
Pour essayer d'être concurrentiels.
Souviens-toi que Volkswagen avait menti. Été condamné pour des mensonges sur les émissions de CO2.
Des CO2 énormes sur le diesel, oui.
Moi, je trouve que c'est nul, les voitures électriques, de toute façon.
Il y a peut-être aussi
tu roules en quoi, Laura?
Moi, je roule en hybride.
Ça n'a aucun intérêt.
Hybride, ouais.
Je roule en hybride.
Comme majoritairement, les Français. Moi, le 100% électrique, c'est quand même assez peu développé pour l'instant.
Tu regardes, là, j'ai 35 km sur autoroute. Je pense que...
Oui, mais donc l'hybride, en fait, c'est de l'essence.
Alors, ça veut dire que pour le moment, tu ne passes pas à l'électrique.
Non, je passe pas à l'électrique. Là, tu vois, mon plein électrique me permet de faire l'aller-retour. Mais aujourd'hui, je vais aller manger avec ma mère.
J'habite à Toulouse et donc là je n'ai pas.
Et donc je fais un détour par Poissy. Je n'aurais pas eu assez.
Voilà, Toulouse, c'est une bonne idée.
C'est dingue, hein.
Donc en fait simplement mais en région parisienne, tu ne peux pas compter sur ton véhicule.
Mais c'est pas ça. C'est que là où je rejoins Olivier et Charles, c'est qu'il y a peut-être aussi une question parfois de coût, en tout cas chez les Européennes. Parce que moi je vois que mon 100 km d'hybride. J'ai 100 km.
Il faut ajouter quand même un truc.
Mais vraiment.
C'est qu'on essaye de forcer les gens à s'acheter des voitures électriques.
Ah, bah oui.
On subit un bourrage de crâne hallucinant. Ursula, nous explique les yeux exorbités. Que si on passe pas à l'électrique, on sera incarcéré. Et condamné à mort parce qu'on n'est pas suffisamment écolo et pas suffisamment européen. Et donc les pauvres Français, ils voient des pubs toute la journée pour les voitures électriques. L'État finance des primes, des machins.
Il y a des bonus.
Les bonus. À Paris, les deux roues sont très incitées à passer à l'électrique.
On met en place des ZFE.
Voilà.
Pour interdire les véhicules thermiques.
Et en fait, quelle est la réalité? C'est que les voitures électriques européennes sont au stade de la camelote en l'état. Donc c'est encore une
espèce
de
témoignage.
Moi
je préférerais que Patrick Pouyanné, si vous voulez, occupe les fonctions d'Ursula von der Leyen. Je pense que l'Europe serait mieux tenue.
Fabien en parle avec nous de l'Orne. Bonjour Fabien.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Bienvenue. Est-ce qu'on nous ment sur l'autonomie électrique? Alors dites-moi.
Alors moi je pense que on nous ment non pas forcément. Enfin moi pour mon cas personnel, j'ai donc une marque, alors c'est pas une marque française, hein, c'est Hyundai. Si j'ai fait le choix de cette marque-là, c'est parce que je me suis renseigné un petit peu avant l'achat de mon auto et je me suis rendu compte en me renseignant un petit peu que Hyundai et Toyota, c'était on va dire les deux marques qui avaient commencé, on va dire, à étudier l'électrique depuis très longtemps et qui avaient une avance technologique sur les autres. Et donc c'est comme ça que j'ai fait mon choix. En attendant, cette voiture, quand je l'ai achetée, elle a 306 km d'autonomie. Enfin, c'est ce qui est donné par le constructeur. Et en fait, ça les respecte tout à fait, quoi. Donc, j'en suis très content. Il y a des fois, j'ai réussi à faire jusqu'à 360 km, alors qu'elle est donnée pour 306. Ah, ça, c'est mon record. Hein. Donc, faire quand même 50 km de plus que ce qui est donné par le constructeur, je trouve ça génial.
Est-ce que...
C'est quoi, comme modèle?
Hyundai, donc c'est coréen.
Donc c'est non, mais oui, on parlait des voitures françaises versus voitures étrangères.
Je dis peut-être qu'on a plus un problème. Mais il y a aussi une autre manière de peut-être de conduire les voitures électriques par rapport aux voitures thermiques. C'est-à-dire il faut quand on prend une voiture électrique. Bah, il faut te désintoxiquer de la manière dont tu as conduit tes voitures thermiques pendant tes années.
Mais comment tu conduis différemment si t'as une boîte auto, par exemple?
Alan, bonjour.
Bonjour les grandes gueules.
Vous nous appelez de Suisse, c'est ça?
Oui, exactement, Suisse, ouais. Ouais. C'est un tout petit village en Moselle.
Et alors, dites-moi, alors, vous avez combien de voitures électriques?
Alors, c'est la quatrième. C'est la quatrième. Donc, on a eu deux françaises, donc les premières en 2013-2015. Mm-hmm. Ensuite, on a eu un MG ZS, véhicule chinois. Oui. Ensuite, on a eu et on a toujours un Renault Scénic, oui. les dernières. Et moi, j'ai la chance d'avoir une BYD Seal depuis quasiment 2 ans. Et
vous là, dites, c'est pourquoi vous dites la chance?
Parce que c'est une voiture chinoise, wow, ouais, c'est ça. Mais d'une qualité exceptionnelle. On est bien voilà. Au-dessus mm-hmm. de tout ce qu'on peut faire comme marque. Et on est sur une autonomie réelle, véritablement réelle.
Combien? 400, 500 km?
Ouais, c'est un Sandorn, ouais. Ouais, ouais.
Ah ouais, donc on est mort. Donc là, vous êtes en
c'est
train de dire.
C'est exactement ce que je disais.
Vous êtes en train de dire que.
C'est bien. En fait, c'est les Français qui mentent.
Non, mais vous êtes en train de dire que Stellantis et Renault, c'est terminé. On va fermer boutique dans quelques années.
Non, mais c'est à eux de
bosser. Allez-y, Alan.
On achètera tout chinois.
C'est à eux de bosser, si vous voulez.
Non, mais allez-y, Alan.
Je veux pas être médisant, mais quand on voit le délire que c'est de différence entre une Renault et une BYD, par exemple, où j'ai un ami qui a une 3008 électrique qui vient de l'acheter, il est dégoûté, il n'a pas d'autonomie, c'est lourd, ça marche pas, c'est pas insonorisé, c'est pas confortable, c'est n'importe quoi. La mienne, nous, on est parti 5000 bornes l'année dernière en vacances, on a été en Suisse à 2500 mètres d'altitude, pas d'histoire d'autonomie, on est redescendu sur l'Espagne à plus 45.
Même l'hiver, là, en ce moment?
Oui, j'ai vraiment pas d'histoire. Vraiment.
Avec
pas
d'histoire. La BYD.
Avec et au niveau du prix de votre voiture par rapport à la 3008 de votre ami?
Eh ben, je suis 20 000 euros moins cher.
Voilà.
Ouais, voilà, c'est du FD.
20 000 euros moins cher et 500 km d'autonomie. Non, mais on l'a dit, on le dirait.
Oui, mais tu vois, le problème, c'est qu'on pousse les Français à acheter électrique. Or, on voit qu'aujourd'hui, les Chinois sont meilleurs que nous. Donc, on va tuer nos constructeurs français et européens. Vous allez voir, dans quelques années, il y aura des licenciements.
Allez-y, Alan, pardon.
Il y a quand même une façon. Vous avez raison tout à l'heure quand vous êtes intervenu sur la façon de rouler, même en boîte automatique. Il faut arrêter de faire ce que j'appelle des start and stop sans arrêt. Il faut arrêter d'accélérer, de freiner, d'accélérer, de freiner. On a une pédale d'accélérateur qui, dès qu'on la lâche, ralentit le véhicule. Donc ça fonctionne. Il n'y a pas besoin. Du coup, on consomme moins et on arrive.
Il y a une conduite plus.
Ouais, mais voyez, Alan, oui, le problème, oui. C'est qu'on est parti nous pendant des années sur nos acquis, c'est-à-dire on est dans le thermique et dans le diesel. Oui. Et il fallait rester dans le thermique et dans le diesel pendant que les autres, eux, inventaient l'hybride. L'hybride, il a été inventé, je vous le rappelle, par les Chinois, c'est par les Japonais. C'est les premières Toyota, ouais. Hein, c'est ça, ouais, qui sont arrivées, dont on se moquait. C'était la Prius.
La Prius, ouais,
quand elle est arrivée, tout le monde se foutait de ça en disant ça marchera jamais. Et ensuite, quand on a commencé à voir les voitures électriques qui sont venues des États-Unis et ensuite de Chine, on dit ah, vous inquiétez pas, on va se réveiller. Bah, on ne s'est pas réveillé. Alan, merci de cet exemple.
Mais dites-vous que.
On est mort! Allez, dans un instant, on donne la parole à la police.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.